Le système oligarchique français avec Laurent Mauduit.
Bonjour, je suis heureux et très honoré d'être devant vous. Je suis journaliste. Si j'avais immodestement à me définir, je me définirais comme un journaliste citoyen. Je suis l'un des quatre cofondateurs de Mediapart. Et avant cela, j'ai traversé toute la presse française, dont Le Monde, pendant très longtemps. Voilà. Donc, on m'a demandé de parler sur ce qui est au cœur de mon dernier livre, qui est sur l'oligarchie française. En clair, si ce débat a un intérêt sur l'oligarchie, c'est qu'elle nous permet, ce débat, d'avoir, de bien comprendre la genèse de la crise sociale historique que traverse le pays. On connaît le moteur de la crise sociale majeure, c'est d'abord les fractures sociales formidables que traverse le pays, les inégalités sociales. Mais il y a d'autres raisons qui ont conduit à cette exaspération, et ce livre que j'ai écrit et qui est paru avant le début de la crise sociale avec les Gilets jaunes permet, j'ai ce sentiment immodeste, d'en comprendre un peu le cheminement. En clair, j'ai eu le sentiment, moi, au lendemain de l'élection présidentielle, que on réduisait un peu vite l'élection de Macron à une sorte de hasard résultant d'une configuration politique désastre totalement improbable. Et Macron lui-même accréditera cette idée en disant « j'ai été élu par effraction ». En clair, on a bien compris pourquoi... Le Parti socialiste a été quasiment totalement liquidé, s'étant moulé depuis plus de 20 ans dans un capitalisme de plus en plus tyrannique. On a bien compris pourquoi le Parti Les Républicains aussi avait été balayé. Et donc on a pu se dire, mais tiens, la victoire de Macron est le produit de cela. Coup de chance pour lui, fenêtre politique totalement improbable. Probable dans lequel il s'insère. Et mon sentiment, c'est que cette explication est fausse. C'est qu'en fait, derrière ce mouvement des plaques tectoniques en politique, s'est déroulé autre chose sur lequel on a, nous, citoyens, sans doute été moins vigilants. En clair, j'ai eu le sentiment qu'il s'était produit, sans qu'on s'en rende bien compte pendant tout un temps, de la part de la haute fonction publique française, d'une sorte de double OPA progressive, d'abord une OPA sur le monde des affaires et ensuite une OPA sur le pouvoir politique. Si je dis ça, c'est que, arrêtons-nous un instant sur l'OPA sur le monde des affaires. On voit bien ce qui va modifier le cœur, l'horlogerie interne du capitalisme français. Ce sont les privatisations. Elles commencent en 86, après la pause de 88, elles reprennent en 93. À chaque fois, c'est la droite. Et ensuite, c'est les socialistes eux-mêmes, à partir de 97, qui privatisent même encore plus vite que les gouvernements de droite antérieurs. Et on voit bien à l'époque ce que changent les privatisations. Même si les polémiques de l'époque ne portent que sur la valorisation, hein, est-ce qu'on brade de l'argent public, on voit bien que ça va modifier le cœur du capitalisme français, qu'on va basculer progressivement d'un capitalisme dit rénant, hein, économie sociale, économie de marché adossée à un système de régulation sociale fort, à un capitalisme beaucoup plus de nature anglo-saxonne, avec une sorte de prééminence de plus en plus forte, visible, du capital sur le travail. Ça, c'est vrai. Hein, toutes les années 90, et surtout la fin des années 90, à l'époque de Jospin Premier ministre, on voit ce capitalisme de plus en plus tyrannique qui s'installe avec les licenciements boursiers, les rémunérations fastueuses des mandataires sociaux du CAC 40, voilà. Mais ce qu'on voit mal à l'époque, et avec le recul, c'est de plus en plus visible, c'est qu'au même moment, les hauts fonctionnaires, pour l'essentiel du ministère des Finances, chargés d'appliquer ces privatisations, les réalisent, mais à leur profit. À leur profit. C'est-à-dire qu'ils prennent les commandes de ces groupes, qu'ils ont la charge de privatiser, ils en deviennent les PDG, et ensuite, par esprit de corps, ils vont transmettre à d'autres inspecteurs des finances les commandes des groupes. Et si vous regardez maintenant avec le recul, quels sont les PDG des groupes du CAC 40, pour ne parler que le cœur du capitalisme français, ce ne sont que des anciens hauts fonctionnaires, que des inspecteurs des finances. Regardez les banques. Toutes les banques françaises, toutes, sont dirigées par des inspecteurs des finances, en clair, par des gens qui ont transité par l'ENA, qui sont passés à l'inspection des finances, donc la Rolls-Royce de la haute fonction publique financière, qui ont été formés censément pour défendre l'intérêt général et qui maintenant défendent les appétits privés. Tous, BNP Paribas, Société Générale, BPCE, toutes les banques sans exception. Crédit Mutuel, aussi bien Crédit Mutuel de Strasbourg que sa branche bretonne qui veut faire cession, mais pas seulement les banques. Regardez la grande distribution. Vous avez d'un côté Carrefour, le géant Carrefour dirigé par Alexandre Bompard, inspecteur des finances, l'ancien proche de Sarkozy. Et de l'autre, vous avez Casino dirigé par Naouri, l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, inspecteur des finances, tous les deux. Et quand les deux hommes, les deux larrons se disent « Tiens, peut-être pourrait-on fusionner le Carrefour avec Casino ?» Où se rencontre-t-il secrètement pour envisager l'histoire? Chez Alain Minc, troisième larron, inspecteur des finances comme eux. Voilà. Donc il y a une sorte d'opération de prédation où des hauts fonctionnaires formés pour défendre l'intérêt général sont passés du côté du privé et en même temps ont adopté l'idéologie, la doxa dominante néolibérale de ces milieux financiarisés, de ce capitalisme financiarisé qui a pris pour modèle le capitalisme anglo-saxon. Donc ça a été le premier temps. Et ce premier temps, on ne l'a peut-être pas bien vu parce que, excusez-moi, le débat, est-ce que la République a des hauts fonctionnaires qui la servent? J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un débat très important. Est-ce que la République a des hauts fonctionnaires fidèles à ses valeurs? Et on n'a pas pris garde à ce qui est en fait une opération de sécession. Ils ont été formés par l'État et ils l'ont trahi. Il faut dire les choses clairement. Ils ont pactisé avec la finance. C'est ça le cœur de l'histoire. Mais l'histoire est grave, c'est qu'il n'y a pas eu que ce moment que dans le jargon de Bercy on appelle les pantouflages. Il y a eu un second temps, beaucoup plus récent, qui est celui des rétro-pantouflages. Allez, disons les choses plus clairement. On a assisté, et là c'est beaucoup plus récent, à une opération de privatisation de l'intérieur des postes clés de la République. En clair, des hauts fonctionnaires, pour l'essentiel de l'inspection des finances, qui sont partis dans le privé, sont revenus pour défendre au sein même de l'État les intérêts du privé. Et ça, des exemples de ce type-là, dans le livre que j'ai fait, vous en trouverez des dizaines et des dizaines, mais allons vite. Qui est le directeur de cabinet non. Qui est le gouverneur de la Banque de France? François Villeroy de Galhau, il a passé plus de 10 ans chez BNP Paribas. Qui est le patron de la Caisse des dépôts et consignations? L'organisme public financier le plus important, notamment pour les financements en région. Éric Lombard, il vient de l'assureur italien Generali, qui faisait partie de la galaxie de Vincent Bolloré. Qui est le directeur de cabinet de l'actuel ministre des Finances? Moulin. Moulin, inspecteur des Finances, il va dans la banque italienne Mediobanca, aussi dans la galaxie financière de Bolloré, et de Mediobanca, il revient directeur de cabinet. Qui est le secrétaire général de l'Élysée, là, qui est sur la sellette avec l'histoire Benalla, Alexis Kohler, qui sort du ministère des Finances, qui demande à deux reprises, dans des conditions tourmentées, de passer dans un groupe dont il ne dira jamais publiquement que c'est le groupe de sa famille, le groupe MSC, Mediterranean Shipping Company, qui est le géant mondial du transport maritime. Et après le passage chez MSC, il revient comme secrétaire général de l'Élysée. Privatisation de l'intérieur des postes clés de la République. Mais pardon, dans la liste, j'en ai oublié un, la liste. innombrables. Hein. Il y a évidemment un rétro pantoufleur en chef. C'est Emmanuel Macron. Parce que c'est lui le plus emblématique de ce mouvement d'essuie-glace. Inspecteur des finances, tout en étant inspecteur des finances. Parce qu'en fait, ce que l'on vit, ça a été une sorte de système de porosité généralisée public-privé. L'ancienne muraille de Chine, entre d'un côté l'intérêt général, de l'autre côté les intérêts privés, s'est effrité progressivement. C'est tellement effrité que Macron lui-même veut, dans son projet de loi, faire en sorte que, pour un haut fonctionnaire, il puisse passer dans le privé et que le temps passé dans le privé rentre en compte dans sa carrière publique s'il y revient. Donc ça montre bien l'écroulement de la barrière ancienne entre public et privé. Mais donc rétro-pantoufleur en chef, parce que donc Macron commence inspecteur des finances. Il va ensuite à la Banque Rothschild. Mais dans ce système d'essuie-glace, c'est pas forcément un jour dans le public, le lendemain dans le privé. C'est parfois un pied des deux côtés. Puisque étant chez Rothschild, au même moment, il devient le rapporteur de la commission Attali, qui a été commandité par Nicolas Sarkozy en juin 2007 pour faire des propositions ultra-libérales pour, vous savez, libérer la croissance française qui était emprisonnée, vous savez, par ce modèle social insupportable. Bon, voilà. Et donc, tout en étant chez Rothschild, il est rapporteur d'une commission qui travaille pour le public, ce qui n'empêche pas de faire des affaires, puisque dans le même temps, c'est là qu'il connaît Brabeck, le PDG de Nestlé, dont il vient le banquier d'affaires, et il fera pour avoir Brabeck des deals financiers tout en étant dans la commission Attali. C'est un système de porosité généralisée. Mais ce que je décris, vous en voyez bien les dangers gravissimes de cette porosité. C'est que s'il y a une privatisation de l'intérieur des postes clés de la République, du coup, ça affecte massivement les politiques publiques. Je vous parlais du gouverneur de la Banque de France. Dans ses prérogatives, la Banque de France, par exemple, fait une recommandation sur le taux du livret A. Vous savez que les banques privées françaises détestent le livret A. Dans l'ancien modèle d'économie sociale à la française, il y avait un système qui marchait très bien, c'était le livret A, qui en fait accomplissait deux missions d'intérêt public. La rémunération de l'épargne populaire, et puis comme l'argent collecté sur le livret A était centralisé à la Caisse des dépôts et servait à financer le logement social, deuxième mission d'intérêt public, le financement du logement social. Les banques ont toujours détesté ce système d'économie sociale à la française, ont voulu faire imploser le livret A, ils l'ont, comme on dit dans le jargon, banalisé, donc ça a été le monopole de distribution a été cassé, toutes les banques ont pu le distribuer, et le résultat c'est quoi ? Ben, c'est que sous l'égide du gouverneur Villeroy de Gallo, qui vient de BNP Paribas, ben, le taux du livret A est par exemple à 0,75%, alors que l'inflation est à 1,6%. Et donc, dans le débat sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire une perte de pouvoir d'achat qui est historique, qui est sans précédent depuis 1818, depuis deux siècles, depuis la création du livret A. Mais élargissez le raisonnement à tous les aspects de la politique publique, cette privatisation de l'intérieur des politiques publiques, conduite par une oligarchie de hauts fonctionnaires adossés à la finance, conduit aux politiques publiques qu'on a vécues. Qui ont un caractère en plus scandaleux parce que ça porte ou ça génère des conflits d'intérêts sans précédent que les citoyens n'ont pas, dont les citoyens n'ont pas forcément conscience. Je vous parlais tout à l'heure de ce mouvement de va-et-vient de Moulin, le directeur de cabinet de l'actuel ministre des Finances. Il va donc, quand il quitte la direction du Trésor, il va donc chez la banque Mediobanca. Quand il va chez Mediobanca, le ministère des Finances prend la banque Mediobanca comme banque conseil pour la privatisation de l'aéroport de Nice. Quand même assez stupéfiant, comme un haut fonctionnaire de Bercy passe dans une banque comme secrétaire général et cette banque est tout de suite cooptée comme banque conseil pour une privatisation. Et on découvrira après coup que la banque conseil, qui conseille l'État, et en même temps, c'est dans une note en bas de page dans le rapport de la Cour des comptes il y a deux mois. Il faut avoir des grosses lunettes pour le repérer. Cette banque Mediobanca est par ailleurs actionnaire minoritaire du consortium qui va gagner la privatisation. Donc enfin, de mon point de vue, ça pose un problème pénal de prise illégale d'intérêt. Et ce qui n'empêche pas ce haut fonctionnaire qui conseille l'État et qui en même temps permet à sa banque de remporter une partie de la privatisation, de revenir ensuite comme directeur de cabinet. Les va-et-vient d'Alexis Kohler, que je raconte dans mon livre et qu'on a ensuite beaucoup chroniqué sur Mediapart, posent les mêmes problèmes. Et vous avez vu que, après beaucoup et beaucoup d'articles, pour ceux qui nous lisent, vous avez vu que le parquet national financier a enfin ouvert, il y a 4 mois, une enquête préliminaire. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en 2 mots, Alexis Kohler donc, ne dit jamais qu'il est lié par sa famille au groupe MSC, et il est à Bercy, et il siège en 2 conseils d'administration pour le compte de l'État. Il siège à STX. STX, vous savez, ce sont les chantiers de Saint-Nazaire, dont à l'époque, le seul client, c'est le groupe de sa famille. Et il vote des dispositions en faveur du groupe de sa famille sans que le conseil le sache. Et il siège par ailleurs au conseil d'administration d'un très grand établissement public, celui du port du Havre, dont le principal opérateur est le groupe MSC. Donc voilà, c'est... quand, j'allais dire le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels, mais c'est plus grave que ça, quoi. C'est la porosité générale fait que l'intérêt public, l'intérêt général se dissout progressivement. Se dissout dans quoi? Dans l'affairisme. C'est ça que nous avons vécu. Et on se moquait du capitalisme du Fouquet's, de Sarkozy. La proximité de Nicolas Sarkozy avec... les grands patrons qui étaient venus l'adouber dès le soir de son élection, pas seulement les grands patrons, aussi tous les patrons de presse, soit dit au passage, mais la consanguinité du système Macron est encore beaucoup plus forte. Alors, dans la formation de cette oligarchie, il y a autre chose qui s'est jouée, qui est une sorte d'OPA aussi, d'une troisième OPA. Je regarde ma montre pour respecter la demi-heure. C'est une OPA sur la pensée, si je puis dire. C'est qu'il fut un temps où, au ministère des Finances, mais c'était vrai dans d'autres ministères aussi, il y avait un pluralisme de la pensée qui en y en a dans le débat public. J'ai le souvenir que, ou j'ai retrouvé que dans les années 60, Giscard, à l'époque ministre des Finances, crée une direction de la prévision. Et dedans, dans cette direction, qui est à l'époque l'une des grandes directions du ministère, il y a des gens de toute sensibilité. Il y a des hauts fonctionnaires de droite, il y a des hauts fonctionnaires de gauche, et dans la gauche, il y a des communistes. Il y a Anicé Le Pors qui deviendra ministre communiste de la fonction publique. Il y a Michel Rocard, à l'époque, qui est au PSU. Et quand ces hauts fonctionnaires ne sont pas d'accord entre eux sur une note qu'ils doivent remettre au ministre qui veut préparer une réforme, ben, ils ne font pas une note, ils en font 2. Ce qui réhabilite le rôle du politique. Il a 2 chemins possibles, techniques, pour une réforme. Et ce pluralisme de la pensée, moi, quand je suis plus jeune journaliste, je la mesure encore. Je veux dire, à l'époque où je suis au Monde, je me souviens que dans cette direction de la prévision, qui depuis a été dissoute, cette direction de la prévision fait des notes de travail dans lequel peuvent écrire des chercheurs qui ne sont pas hauts fonctionnaires. Mais la direction de la prévision, s'appuyant sur son aura intellectuelle, accepte de publier des études dont elle considère que économiquement c'est intéressant. Et moi j'ai le souvenir d'avoir découvert un jeune économiste qui m'avait ébahi, totalement inconnu puisqu'il était tout jeune à l'époque, qui s'appelait Thomas Piketty. Ceci aujourd'hui est totalement inconcevable. Ce sont les petits hommes gris, ils pensent tous pareil. De gauche, de droite, ça n'a plus aucune importance. Ils sont tous pareils. Dans ce mouvement des privatisations, la haute fonction publique s'est convertie à la doxa néolibérale qui chasse tous les hérétiques, tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et du coup, vous voyez bien ce cheminement intellectuel. Il y a eu des grands rapports produits par Bercy, mais je pourrais parler d'autres ministères aussi, mais sur le SMIC... sur les salaires, dire, du rapport Oliven au rapport Minc au rapport sur le SMIC plus récent, il y a une sorte d'obsession du ministère des Finances sur les Français sont trop payés. Hein, je peux vous citer 15 ou 20 rapports produits par Bercy, très connus. Ça commence évidemment avec la désinflation compétitive voulue par les socialistes dès 1983-84, mais il y aura une sorte de tyrannie intellectuelle. Le chômage vient des salaires trop élevés. Et quand on sait que depuis 15 ans, ça n'a pas beaucoup changé, les revenus, le revenu médian des Français, le revenu médian, donc pas les salaires, les revenus, c'est-à-dire après redistribution, c'est à peu près 1600 euros par mois. Oser dire que les Français sont trop payés, je veux dire, c'est quand même une contre-vérité notoire. Et pourtant, tout Bercy s'est aligné là-dessus. Et du coup, quand vous regardez bien ce qu'est le fond de la politique économique et sociale de Macron, il n'y a pas d'invention dans ce qu'il fait. C'est la doxa, c'est ce qui dormait dans les tiroirs de Bercy depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il y a trop de déficit, il y a trop de dépenses publiques, il y a trop de dettes, il y a trop... Et c'est une pensée fruste, je veux dire fruste, parce que on le sait bien, dire culpabiliser les Français, par exemple, sur la thématique « il y a trop de dettes », hein, on connaît, vous connaissez la formule célèbre de Raymond Barre, « la France vit au-dessus de ses moyens ». Ça date de 1977, je crois, la formule. Et depuis, ça a été le leitmotiv permanent. Trop de dettes, trop de dettes. La France vit au-dessus de ses moyens. Alors que dès lors que l'on fait, comme l'a fait Attac, l'audit de la dette publique, on se rend compte, notamment si on parle des années récentes, des années 2000, la majorité de l'origine de la dette provient des baisses d'impôts, essentiellement de l'impôt sur le revenu. En clair, le gros de la dette publique des années 2000 provient, comme c'est l'impôt sur le revenu, donc c'est les 50% des Français les plus favorisés. Et donc imaginez un plan d'austérité qu'on fait payer aux retraités par une désindexation des retraites. C'est en fait organiser un immense transfert de revenus, c'est faire payer par les pauvres les cadeaux faits aux riches. Et donc c'est ça la doxa de Bercy. Depuis des années, et c'est ça qu'incarne Emmanuel Macron. Alors, il y a dans cette histoire, dans ce cheminement de l'oligarchie de Bercy, une surprise. C'est qu'on aurait pu se dire que cette oligarchie très libérale en économie aurait malgré tout pu changer quelque chose dans le pays en engageant des réformes démocratiques. C'était l'aspect un peu new look apparent qui a pu pour certains créer cette naïveté-là. Macron va peut-être toiletter les institutions. Alors en fait, quand on rentre dans la psychologie de cette caste, comment vous dire, la plupart de ces hauts fonctionnaires que je connais, que je côtoie depuis 30 ans ou 40 ans, ne sont pas contre la démocratie. Mais beaucoup, dans le ressort psychologique, trouvent que la démocratie, c'est quand même une perte de temps. Attendez, vous pensez vraiment que c'est utile que l'on se concerte sur la réforme des retraites, alors que l'on sait si bien, depuis le livre blanc de Rocard sur les retraites de 1991, ce qu'il faut faire? Mais non, il faut y aller maintenant. Et le reproche que cette caste adresse à Hollande et Sarkozy, c'est d'avoir été dans le bon sens, mais pas assez vite. Voilà, donc on ne va pas se concerter avec les syndicats sur une réforme dont on sait le point d'arrivée. Et donc, il y a une sorte de rencontre qui s'est faite entre cette caste et les institutions de la Ve République autoritaire, hein, ce système que Mitterrand appelait si bien le coup d'État permanent, enfin qu'il appelait si bien tout en ensuite se mouler dans ces institutions à son propre profit. Et donc, du coup, c'est le regard que j'ai sur le fonctionnement de cette caste. C'est le pire du libéralisme et le pire de de l'illibéralisme. C'est la conjugaison des deux. Et il y a une chose qui me frappe, parce que, du coup, le débat principal qui nous est posé, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est si un jour nous arrivions à réformer ces institutions, à refonder une vraie démocratie dans ce pays, il y aurait dans les champs multiples, faudrait refonder la presse, faire une vraie presse libre et indépendante. Il y a tellement de chantiers à engager, refonder la démocratie sociale. Mais il y a aussi un petit chantier qui n'est pas inintéressant, qui est même très important, c'est comment faire en sorte pour que la République ait des gens qui la servent honnêtement, loyalement. Si je dis ça, c'est que je me suis amusé à faire dans ce livre l'origine historique de la pensée intellectuelle du ministère des Finances. Et vous savez, en fait, il y a des grands républicains qui ont lancé des alertes. En 1848, il y a un grand républicain qui dit, voilà, il faudrait former une haute fonction publique républicaine. Il y a plus récent, Marc Bloch. Dans les périodes de troubles, c'est toujours assez sympathique de se référer à des penseurs chaleureux. Stéphane Hessel, il y a peu de temps. Marc Bloch, plus avant. Et Marc Bloch, dans son livre, L'étrange défaite, donc écrite juste après la débâcle de juin 40, dit, et vous allez comprendre pourquoi je fais ce rappel-là, il dit, en fait, la débâcle de juin 40, c'est pas une victoire des Allemands sur les Français, c'est une défaite de la France sur elle-même. Pour quelle raison ? C'est que les élites françaises étaient déjà du côté des vainqueurs avant même qu'ils soient là. Et Marc Bloch a cette formule formidable. Le pire est que nos adversaires n'y furent pas pour grand-chose. Ben, je trouve qu'on pourrait dire la même chose. C'est au moment précis où, face au coup de boutoir répété du modèle néolibéral, on aurait eu besoin d'une haute fonction publique solide pour défendre les intérêts publics, pour défendre le modèle social. C'est à ce moment-là que la haute fonction publique a fait sécession et passé de l'autre côté, du côté du camp adverse, du côté de la finance, qui veut détruire ce modèle social. Et alors l'origine, c'est quoi? Vous savez, la formation donc, de ces hauts fonctionnaires, pour beaucoup c'est l'ENA. L'ENA est créée par Michel Debré, le compagnon d'armes du général de Gaulle. Et l'ENA, en fait, Michel Debré est formé à la fac de droit de Paris par un prof très connu à la fin de la guerre de 14 qui s'appelle Barthélémy. Barthélémy finira mal puisqu'il finira garde des Sceaux sous Vichy. Mais à l'époque, dans les années 20, Barthélémy ramasse ses cours dans un livre qui s'appelle « Le peuple et les experts » qui est très intéressant quand on le lit parce que l'idée centrale de Barthélémy, c'est de dire « Le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. » Il faut donc, dans la démocratie, trouver une articulation entre le peuple et les experts, de sorte que les experts puissent tracer la voie. Et Michel Debré, quand il crée l'ENA en 1945, donc longtemps après, dira qu'il s'est beaucoup inspiré de la pensée de Barthélémy, en fait créer une haute fonction publique autoritaire, très en empathie avec ce qu'est l'esprit même des institutions de la Ve République, pas une vraie démocratie, l'État autoritaire, l'État vertical. Et je trouve que tous les défauts de ce système d'autoritarisme qui fonctionne au Knut, qui fonctionne quand il en va de la démocratie sociale ou du modèle social aussi par ordonnance, qui produisent des explosions. Alors les ordonnances, dans l'histoire du pays, on oublie que des ordonnances ont créé des révolutions. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui aiment bien l'histoire. 1830, les Trois Glorieuses. Alors, pour le journaliste que je suis, c'est vrai que le rappel des Trois Glorieuses fait plaisir, parce que la révolution, les Trois Glorieuses, de juillet 1830, commence par les cinq ordonnances de Saint-Cloud. La première d'entre elles, c'est la suppression de la liberté de la presse. Bon, mais voilà, il y a une sorte de vengeance de l'histoire. On ne gouverne pas un pays au Knut. La morale de l'histoire, j'ai du mal à la tirer. C'est le pays lui-même qui la tire en son moment même. L'enjeu du débat, c'est la refondation d'une république démocratique et sociale. Et donc, l'invitation que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est d'essayer de montrer que dans le chantier d'une refondation républicaine, il y aurait cette fonction de la réflexion sur comment briser les reins de l'oligarchie. On m'a fait une critique et je le dis et je termine là-dessus. c'est le porte-parole d'Attac dans un débat il y a 2-3 mois, Dominique Plion, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui m'a fait cette critique en disant ton travail est intéressant, mais il faudrait qu'avec d'autres chercheurs on le mutualise parce que la caste, l'oligarchie, elle a des ramifications innombrables. Certes, la ramification du ministère des Finances est décisive, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a le corps des mines qui a préempté le débat nucléaire et qui l'a enlevé du contrôle citoyen. Et c'est vrai que dans le système oligarchique est sans doute plus complexe que ce que je vous ai décrit dans l'espace rapide que j'avais. Voilà, en tout cas, c'est une invitation à une réflexion. Ah, comment l'appeler ? Une refondation ou une révolution démocratique. Merci.
Merci Laurent. Avant de commencer les échanges, je vous signale qu'il y a quelques places par-ci, par-là dans la salle. Donc si les gens qui sont au fond veulent trouver de la place, je les dirige dans les différents coins. Il y en a une ici, j'en ai deux ici, deux là-bas, une par-là. Donc si vous pouvez, il y en a là-bas. Signalez-vous ceux qui ont des places à côté d'eux. Et comme ça, les gens du fond vont pouvoir se déplacer et se repérer dans la salle. Et s'installer confortablement pour assister à la deuxième partie donc, de la soirée, c'est-à-dire vos interventions et les réponses ou les interventions de Laurent. Voilà. Qui veut la parole ? On va prendre 3 interventions chaque fois. Hein ? Essayez d'être pas trop long, de façon que le maximum de personnes puissent participer.
Eh bien, merci. J'ai 2 questions que je pourrais résumer en 2 mots par rapport à ce que vous avez dit, que je nommerai Pompidou et l'Europe. Pompidou pour la fameuse loi Rothschild et dont vous ne parlez pas, mais qui me semble être le point de départ qui a été voté au niveau de sa mort et qui explique quand même une bonne part de la dette nationale, dont Giscard ne s'est pas servi à l'époque, mais qui a explosé sous Mitterrand et sous ses suivants, évidemment. La deuxième question qui est le rapport, j'allais dire, de ces oligarchiques avec l'Europe, qui me semble être un bon outil pour eux, plus qu'un bon service pour nous.
Oui, la caste, est-ce que c'est pas un petit bosquet qui cacherait la forêt ? La forêt étant la domination absolue des multinationales, des banques globalisées, financiarisées, du capitalisme mondialisé, avec nos 40 belles multinationales françaises qui écrasent nos vies. Hein. On veut des renouvelables, on nous met de l'éolien de 260 mètres de diamètre de palque, 1100 mètres cubes de béton, enfin bref. On veut du renouvelable, en fait, on nous refourgue du capitalisme vert à tour de bras, et le système continue avec 200 ou 300 kilos de néodyme qui ravagent les territoires du Sud. Bref, est-ce que la question n'est pas tellement la République démocratique et sociale qu'une République autoritaire gérée par le peuple en direct, que ce soit par RIC ou Nouvelle Constituante, tirage au sort, mettant à la raison les plus puissants, c'est-à-dire nationalisant le grand système bancaire, retrouvant l'autonomie de la monnaie, et aussi peut-être donnant beaucoup de pognon aux communes qui en 2020 pourraient passer en démocratie directe, fabriquer un peu d'électricité, de gaz, de chauffage et surtout d'alimentation en remettant en culture la périphérie. Parce que l'impact écologique, c'est que nous allons vers la fin de l'humanité, à la fin de ce siècle. 55 degrés à Lyon en 2050, entre juin et septembre. Le monde devient invivable parce que le capitalisme l'a détruit. Donc, est-ce que, entrer dans le capitalocène, nous faisons seulement une république démocratique et sociale avec des fonctionnaires intègres, ou est-ce que nous faisons aussi une république autoritaire contre les riches, les puissants, les milliardaires, les propriétaires des moyens de production modernes. Merci.
Une dernière intervention et puis on laissera la parole à Laurent Mauduit.
Oui, vous avez parlé du pantouflage. J'aurais bien aimé que vous disiez un mot du lobbying, s'il vous plaît.
Non, ça va. L'exercice de réponse est toujours désagréable parce qu'il y a un aspect de surplomb de celui qui répond. Donc je réponds, mais je n'ai pas forcément raison. Donc c'est voilà, un échange, donc je vous livre mon point de vue. Sur Pompidou, vous avez raison. dans les dettes que le pays a traînées, il y a beaucoup plus qu'en Pidou. Bien avant, il y a eu Pinet, il y a eu, c'est vrai, il y a eu Giscard. Juste petite parenthèse sur le Pompidou vient de Rothschild. Et on peut se dire, ah mais les pantouflages, c'est un phénomène très très ancien, et même sans remonter à Pompidou. En allant au-delà de Pompidou, vous prenez sous le Second Empire, déjà l'inspection des finances, le pantouflage est massif et va vers les banques. L'aspect très nouveau de Macron, c'est l'aspect massif. C'est ce que j'ai décrit sur... Il y a 50, 60 cas que l'on peut documenter. Et l'équipe même de Macron est faite de rétro-pantoufleurs. La remarque faite par la même personne tout à l'heure sur l'Europe est très importante. Par économie de temps, je n'en ai pas parlé. Mais il va de soi que les deux phénomènes de caste française et de caste bruxelloise s'emboîtent l'une l'autre. Il y a les mêmes tendances à l'œuvre. D'ailleurs, une partie de la haute fonction publique française a été irriguée l'administration de Bruxelles et a les mêmes comportements. Et dans mon livre, je m'arrête parce que ça me semble peut-être l'exemple le plus caricatural à l'exemple du G7 de Cannes. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est 2011. C'est à l'époque où, au cours de ce G7, Sarkozy et Merkel s'entendent sous le regard sidéré d'Obama pour organiser en fait deux coups d'État à froid dans deux pays européens, en Grèce et en Italie, pour installer à la tête de ces deux pays des hauts fonctionnaires qui mettent en place des politiques d'austérité sans que ces deux pays ne votent. Ce qui est quand même la caricature de la bureaucratisation, la prise du pouvoir par la haute fonction publique européenne, pour beaucoup d'entre eux venant eux-mêmes de la finance. Voilà, donc les phénomènes français et européens s'emboîtent. Je suis très sensible à la remarque sur attention, le débat ne peut pas se limiter seulement à avoir une république vertueuse, transparente, avec des hauts fonctionnaires honnêtes. Je l'ai bien dit. Ce que nous avons en face de nous, c'est un capitalisme financiarisé qui génère des inégalités formidables et nouvelles. Mais à côté de ce problème économique et social, lié à ce qu'est le capitalisme français et planétaire, il y a ce surajout pour nous un problème démocratique qui est la gestion par cette caste au service de la finance. Donc j'entends bien qu'en plus des choses que j'ai pointées, il y a tout le débat sur comment amender ou renverser ce capitalisme. Et donc j'entends bien le débat sur nationaliser le système bancaire, renationaliser les autoroutes. Alors si on rentre dans ce débat-là, je dis juste moi mes préférences, c'est que je ne pense pas non plus que, de la même façon qu'une haute fonction publique intègre ne réglerait pas tout, de la même façon, je ne pense pas que la reprise par l'État de biens passés au privé réglerait les choses. Et je suis beaucoup plus attiré par les nouveaux modes de propriété que certains économistes ou penseurs avancent, notamment sur les thématiques du commun, moi auquel je suis très sensible. Je trouve qu'il y a des biens qui devraient être inaliénables, qui ne devraient pas, même pas être la propriété de l'État. C'est l'eau, l'air, et pourquoi pas des choses plus vastes comme les transports, le bien de tous. L'État ne devrait pas avoir le droit de les vendre. Donc je trouve que la question de la nature de la propriété ne s'oppose pas dans les termes où on pouvait les poser il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense qu'il y a tout un champ d'imagination qu'une gauche progressiste et intelligente devrait dessiner. Voilà. Bien sûr, les communs intègrent ça. C'est le contrôle par les citoyens à leur échelle. Voilà. Dernier point sur les lobbying. L'invitation qui m'est faite de pointer l'enjeu du lobbying c'est évident, est très fort, mais dans ce système de rétro-pantouflage, Hulot le dit quand il quitte le gouvernement, je ne sais pas ça part de candeur ou ça part de mauvaise foi, sa surprise, dit-il, c'est que les lobbyistes sont au sein même des réunions interministérielles. C'est Wargon qui siège au sein même, alors qu'on sait qu'elle défend... et c'est pas la seule. Voilà, donc c'est ça la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas seulement les lobbyistes, et donc la question, c'est pas seulement d'encadrer leur rôle, comme prétend le faire Bruxelles ou comme la France pourrait vouloir le faire, c'est les lobbyistes sont au cœur même de l'État maintenant, et donc le problème, c'est pas un problème de régulation, c'est quoi les règles? Du coup, on peut rentrer. Et il y a tout un champ de débat qu'il faut inventer. Donc je vous livre en vrac quelques idées. Quelqu'un qui je trouve, quitte la fonction publique, devrait en démissionner. La démission devrait être obligatoire. Il n'y a pas de possibilité de retour. Il ne me choque pas que si on respecte le code pénal, on puisse passer au privé, si on respecte le code pénal. Hein, parce qu'on se rend compte que dans les grandes affaires, maintenant, un François Pérol qui commande de l'Élysée, Banque Populaire et Caisse d'Épargne de fusionner, qui ensuite lui-même en prend les commandes, il arrive à ne pas se faire condamner en appel. Donc les bras vous en tombent. Mais voilà. Donc il y aurait plein de dispositions à réfléchir pour reconstruire cette muraille entre le public et le privé qui s'est fissurée au fil de ces 30 dernières années et qui s'est totalement effondrée depuis le début de ce quinquennat.
On reprend une autre série d'interventions. Si on peut avoir des interventions féminines, ça équilibrerait un peu la moitié de l'humanité. Ah, j'en vois
une. Oui, par exemple, une des solutions par rapport aux lobbyistes, nous, le peuple, on a le pouvoir de consommation. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un boycott, éviter de consommer tout ce qui vient des lobbyistes, par exemple? Par exemple, l'alimentation bio, ce n'est pas des lobbyistes. Enfin, voilà, et d'autres produits de première nécessité qu'on pourrait remplacer par d'autres choses autres que des lobbyistes. Qui viennent de chez eux.
Autre intervention.
Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. Alors, moi, je me demandais comment pourrait-on trouver une banque solidaire ? Parce que l'idée, moi, c'est ce que je pense faire. Au lieu de prendre des actions à la Caisse d'Épargne ou à la Banque Populaire, etc., des assurances-vie, regardez ce qu'il y a un petit peu dans les contrats d'assurance et vous verrez qu'il y a plein de lobbyistes à l'intérieur. Donc, si vous avez de l'argent à placer, mettez-la dans une banque solidaire. Donc moi, c'est un petit peu le projet que j'ai en ce moment, parce que même le livret A, comme vous avez dit tout à l'heure, n'est plus du tout utilisé pour le logement social comme il a été fait à l'origine. Donc voilà, donc je vais quitter ma banque. Faites peut-être pareil. Quittez toutes ces banques, les grosses banques, ces grosses multinationales qui s'en mettent plein les poches et qui appauvrissent en même temps le citoyen qui a des bas salaires. Puisque, en fait, il faut savoir que ces banques gagnent beaucoup d'argent avec les gens qui sont à découvert. Donc peut-être essayer de trouver une solution de ce côté-là, mais il faut le faire tous ensemble. Ce qui est difficile à l'heure actuelle, c'est de se battre, hein, la preuve, hein, parce qu'on vous met des jets d'eau et puis on vous envoie des balles pour vous taire. Donc ça devient compliqué. Notre démocratie est vraiment en danger. Donc voilà, un grand débat.
Une autre intervention, éventuellement. Oui,
monsieur le ministre. Les solutions, si vous êtes au pouvoir. Parce que vous critiquez, mais c'est bien de proposer des solutions. Et vous pensez quoi du RIC et des gilets jaunes? Parce que beaucoup de vos confrères qui critiquent le peuple, en fait. Ils critiquent. Est-ce que vous êtes pareil ou vous faites un peu... est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais.
Très près. C'est bon, on arrive.
Sur le boycott, j'ai pas d'idée, donc je m'autorise à faire carte... Joker. Sur la banque solidaire, en revanche, j'ai une idée c'est, qui va nuancer mon propos de tout à l'heure sur les retours aux nationalisations. C'est que je pense que compte tenu de la gravité de la déréglementation financière que l'on vit, on ne trouvera jamais de solution sans renouer avec l'idée d'une nationalisation du secteur bancaire. Je pense que le financement de l'économie ne peut pas être abandonné de l'économie et des besoins sociaux de la population. Ne peut pas être abandonné aux appétits des banques privées. Si je dis ça, c'est que si on repense à ce qu'a été, par exemple, le début des années Hollande, il y avait une très belle idée, en tout cas qui a fait fantasmer beaucoup de gens, qui était l'idée d'une banque publique d'investissement. L'idée, dans le schéma qui avait été proposé dans la Duprie de Hollande, c'était... Renons avec l'idée Roosevelt, faisons une sorte de glass Steagall Act à la française, on fait une partition entre les parties spéculatives des banques pour tuer les banques spéculatives et on isole les banques commerciales. Ça n'a jamais vu le jour, vous le savez. Et puis il y avait par ailleurs l'idée d'une banque publique d'investissement. Or en fait, l'aspect Hollande a renié son engagement en ne faisant pas la partition des banques. Et par ailleurs, la banque publique d'investissement a vu le jour par la fusion de certains secteurs de la Caisse des dépôts et du Fonds stratégique d'investissement, le FSI, hein, mais c'est devenu une banque spéculative comme les autres. Alors qu'il y aurait tellement dans les projets solidaires, mais pas seulement. Je vous parle de mon secteur à moi, mais j'imagine que chaque citoyen dans son domaine pourrait trouver des illustrations. Prenez la presse. Le secteur de la presse est totalement nécrosé. On vit un naufrage économique, éthique et moral de la presse. Et donc l'un des enjeux démocratiques des années à venir, ce serait, dans l'esprit de ce qu'était le Conseil national de la Résistance, rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières. Je fais la citation exacte du programme du CNR. Mais pour ceux que ça intéresse, vous doutez bien que si vous créez un jeune journal indépendant, imaginez qu'à Lyon, 5 jeunes journalistes qui ont 25 ans créent un jeune journal, comme certains l'ont fait à Marseille, comme d'autres l'ont fait à Montpellier. C'est dur de créer un journal parce qu'il faut fidéliser un lectorat. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut 4-5 ans pour installer un modèle, fidéliser les lecteurs. Et la difficulté d'un jeune journal, et compte tenu du naufrage de la presse nationale, mais aussi de la presse régionale, dans ces systèmes de consanguinité, de clientélisme, de népotisme, s'il y avait une vraie banque publique d'investissement, il y aurait tellement de choses à faire. Elle pourrait faire des prêts à taux zéro pendant 5 ans aux jeunes journalistes, le temps de démarrer. Et je pense qu'il y a plein de projets de ce type-là, solidaires ou d'intérêt public. Et donc, je pense que pourrait-on faire ? C'est pas moi qui vais vous dire ce qu'on pourrait faire. Hein. Je pense qu'une refondation démocratique, c'est le peuple qui prend la parole. Et donc, c'est en grande partie ce que nous vivons aujourd'hui, hein, avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, il y a dans ce mouvement des dérives, parfois individuelles, il y a parfois des choses insupportables, mais le fond de l'histoire, le fond, on le sait bien. C'est une aspiration à l'égalité sociale. C'est l'aspiration à un monde meilleur. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas d'en haut qu'on va dire. C'est l'enjeu, la période qu'on vit, c'est casser le verticalisme insupportable que Macron a. Dont Macron est la caricature. C'est refonder une société avec une volonté qui part une vraie démocratie, c'est un va-et-vient, c'est une respiration, c'est du collectif. Pourquoi est-ce que la démocratie française fait exception dans le concert des grandes démocraties ? C'est que nous, on vit toujours dans le legs du bonapartisme, de la monarchie. Pour dire les choses clairement, on vit dans un système néo-monarchique. Ça vient du haut. Et donc, il y a dans ma réflexion qui est... Là, je déborde de mon travail. J'aime bien parler de ce sur quoi j'ai une légitimité parce que j'y ai travaillé. Mais il y a un point commun, ce que je dis sur... une refondation démocratique avec la réflexion sur les communs. Les communs, c'est les citoyens s'approprient ce qui est à leur échelle, à leur niveau. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on vit avec les Gilets jaunes. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce mouvement est un débouché démocratique. C'est toujours une bataille. On ne sait pas quelle sera l'issue. Et donc, moi, c'est mon espoir, c'est que ce mouvement nous permette de couper le boulet qui fait que la démocratie française n'en est pas vraiment une.
On reprend une série d'interventions.
Toutes les formes de démocratie, dont le RIC me semble positive, j'ai toujours, moi, dans ma culture démocratique, une crainte sur le référendum. Et on voit un référendum au plan national. On voit bien que dans les régimes césaristes, bonapartistes, monarchiques, hein, le référendum, ça peut être la légitimation du tyran. Le RIC, c'est pas ça, parce que ça peut être à l'échelon local. Mais c'est vrai que c'est ça mon souci avec le référendum, c'est que ce soit bien le contrôle du peuple par le peuple pour le peuple, que ce soit pas un système plébiscitaire que le référendum favorise. Voilà, mais tout ce qui part de la base, dans l'état d'anémie démocratique dans lequel nous sommes, me semble une bonne chose.
Non, on prend une autre série de questions, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas d'autres mots, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir parler du tout.
Bonjour. Excusez-moi, j'ai une question à poser également. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'évolution de la porosité croissante entre le public et le privé, et l'évolution de l'économie française vers le néolibéralisme que ça amène. Cependant, je me posais la question. Vous avez parlé des années 1986, milieu des années 90, pour l'augmentation croissante de cette évolution vers le néolibéralisme. Mais je souhaitais quand même rappeler que dans ces années-là, justement en 86, c'est l'année de l'acte unique européen qui a créé le marché unique. Donc avec ses règles néolibérales, il y a eu après le traité de Maastricht en 92. Donc avec les critères de Maastricht, notamment sur la dette publique. Donc est-ce que tous ces... Ma question finale, c'est qu'est-ce que de la poule ou de l'œuf a amené cette oligarchie française? Est-ce que c'est l'évolution des règles, et notamment de ces traités européens, qui ont fait que notre système politique est devenu d'autant plus poreux vis-à-vis des intérêts publics? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est l'évolution de cette caste qui a amené vers ces traités-là, sachant que, comme vous l'avez dit, le pantouflage, il a existé depuis très longtemps, et les intérêts privés ont toujours tendu à influencer l'intérêt public. Donc voilà, ma question, c'est est-ce que c'est pas plutôt ces règles, et notamment ces règles européennes très néolibérales, qui ont amené vers cette évolution, que plutôt l'évolution de la caste politique française? Je vous remercie pour votre réponse.
Bonsoir, Monsieur Mauduit. Je vous remercie d'être présent parmi nous et de faire en quelque sorte, à travers cette conférence, un peu d'éducation populaire. J'ai noté, je suis arrivé un peu en retard, peut-être que vous avez précisé des choses que je ne connais pas, mais vous avez mis en cause notre haute fonction publique, porteuse de la doxa néolibérale. Mais moi, je me pose tout de même une question de savoir... si tous nos malheurs ne résultent pas de choix sociétaux qui se sont exprimés à travers des votes et qui ont mis en place des gens, soit au niveau de la présidence de la République, soit au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont mis en place des gens favorables à cette doxa néolibérale. Donc, il faudrait peut-être... essayer de développer un peu plus, si vous voulez, tous les aspects qui tournent autour de l'éducation populaire, et peut-être amener les gens, à l'occasion du mouvement social des Gilets jaunes, de se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas faire un appel à une assemblée constituante qui aurait donc pour but d'écrire une nouvelle constitution qui... celle-ci, cette fois-ci, ne serait pas écrite par des énarques, okay, comme celle de 1958, mais par des gens issus du peuple qui prendraient en charge leur sort à travers de nouvelles dispositions. Merci.
Une dernière intervention avant que Laurent puisse intervenir.
Oui, Monsieur Mauduit, concernant votre inquiétude à propos du RIC, du référendum d'initiative citoyenne capable de conforter un bonapartisme. Il faut savoir que le véritable RIC est non seulement écrit par le peuple lui-même, comme vient de le dire le précédent intervenant, mais en plus, il est appuyé par une chambre du référendum composée de citoyens tirés au sort, donc par une représentation automatique d'hommes, de femmes, de riches, de pauvres, etc., de toutes les classes sociales. Et cette chambre tirée au sort doit vérifier que le délai pendant lequel on examine la question posée au référendum, question écrite par le peuple lui-même, hein, par une initiative citoyenne, que dans ce délai-là, eut au moins une chaîne de télévision indépendante et loyale dans la mise en scène des conflits autour de cette proposition citoyenne. Et au bout de ce délai, le peuple vote, tranche, et son vote ne peut être empêché par quiconque. La chambre en question, la chambre de citoyens tirés au sort, valide le vote et aucun conseil constitutionnel ne peut s'y opposer. Donc je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, enfin la question précédente. Il faut effectivement un premier référendum d'initiative citoyenne écrit par le peuple, valable en toute matière, y compris les traités, et qui établit une nouvelle constitution. Donc, est-ce que c'est capable de vous rassurer sur ce que vous avez dit?
Alors, est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou l'inverse? Compliqué comme débat, parce que si on observe que la crise financière que l'on vit est une crise de la dérégulation, Il faut avouer que la dérégulation commence même avant 82-83. La dérégulation monétaire, c'est dès le début des années 70. C'est la fin de la convertibilité du dollar en or. Donc il y a des coups de boutoir, dérégulation monétaire au début des années 70, et ensuite avec les socialistes, déréglementation fiscale, déréglementation des mouvements de capitaux, ensuite commencera la déréglementation du travail. Voilà. Donc, au plan planétaire, la dérégulation, en fait, on rentre dans un détricotage de ce qu'était l'Europe sociale de l'après-guerre, hein, à la fois Bretton Woods, mais aussi, on l'oublie souvent, ce qu'était l'Europe sociale voulue, qui est l'accord de Philadelphie, qui a lieu au même moment que Bretton Woods. On va rentrer dans une période, à partir du début des années 70, du détricotage du modèle voulu par les libérateurs du pays. Hein, de la démocratie économique et sociale. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a début des années 70, ensuite il y a une accélération avec le tournant de 82-83. Et c'est à l'époque, on le vit sans bien comprendre ce que l'on vit. On se souvient de Jospin qui dit « Espérons que la rigueur ne soit qu'une parenthèse ». Et en fait, on se rend compte 40 ans après que 35 ans après que la parenthèse ne s'est jamais refermée et qu'au contraire la dérégulation salariale n'a cessé d'augmenter. Sans doute l'INSEE fait pas de catégorie fine à ce point-là, mais sans doute peut-on penser que sur les 6 millions d'ouvriers, pour eux, le pouvoir d'achat ouvrier a constamment baissé depuis 82-83, constamment baissé. Voilà, l'œuf et la poule, les deux choses se sont combinées. Je vais vite sur la démocratie, sur la constituante, je suis évidemment d'accord, c'est ça le rêve, c'est ça. Ensuite, la question, c'est le cheminement pour arriver à la déclencher. Donc, ça rejoint le débat sur le RIC. Et c'est vrai que quand on regarde bien ce qui s'est passé, y compris dans l'Europe récente, quand on voit ce qui s'est passé en Islande, par exemple, dans le cadre de la révolution démocratique déclenchée par la crise financière, ils ont refait une constitution dessinée par une partie citoyenne dont une partie a été tirée au sort. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions sur la fin des politiques professionnelles, le droit des peuples, le droit du peuple à se disposer de lui-même. Mais tout ça est en chantier, en débat, et on en connaît les contours. Les contours, c'est effectivement redonner la parole au peuple. En clair, c'est ce que j'ai résumé par cette formule. Sortir du système néo-monarchique français. Et donc, nous tâtonnons tous dans le même sens.
Bien.
Oui, j'ai juste une remarque dans la proposition. J'ai oublié qu'il parlait du RIC à l'instant. La seule remarque qui, pour le journaliste que je suis... m'agace, et ce débat serait popularisé par une chaîne loyale. Je n'aime pas ça. Par une presse indépendante, oui, qui aurait aussi le droit de critique, le droit de... Voilà, pas une presse loyale, une presse indépendante.
Merci. Une autre série d'interventions. Manifestez-vous. Pas d'autres interventions. Donc, une là. Ah ben, vous attendez, il y a déjà là.
Merci. Est-ce que le secret des sources existe toujours, notamment par rapport à l'affaire Benalla? Je voulais savoir si l'enregistrement avait été récupéré suite à une faille de sécurité d'Apple ou... Voilà. Et est-ce que vous avez...
Reformulez votre question, j'ai pas entendu.
Par rapport à l'affaire Benalla, il y a eu un enregistrement qui a circulé. Il a été obtenu comment ? C'est suite à une faille de sécurité de Apple ou c'est un enregistrement qui a été fait voilà. Et est-ce que vous avez l'intention un jour de rendre l'accès à Mediapart via une anonymisation ? Parce que là, faut créer un compte, faut donner son nom, tout ça. C'est ça me gêne, moi. Merci.
Une autre question par là ? Non, je vais essayer de prendre des interventions nouvelles.
Est-ce que la caste dont vous parlez, qui se sent les coudées de plus en plus franches, n'évolue-t-elle pas ainsi? Parce qu'en face, il n'y a rien. L'URSS, qui pouvait faire peur au gouvernement de droite, parce qu'il y avait un parti communiste à l'époque puissant, ou en tout cas des forces de gauche qui s'y opposaient. Et vu leur effondrement actuel, plus rien ne les arrête.
Vous avez évoqué très brièvement l'Islande. Il semble aussi qu'il se passe des choses au Portugal. On entend très peu parler de ce qui s'est passé dans ces pays-là, qui me semble être intéressant pour le peu que j'en sache.
Je ne sais pas combien de quel pays vous...
L'Islande et le Portugal.
On va sortir bientôt de mon domaine de compétences. Sur les enregistrements, la chose est simple. Le débat, je ne vais pas vous dire comment on les a obtenus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la jurisprudence démocratique sur laquelle on s'appuie. Nous publions des enregistrements, quelles que soient leurs origines, que l'on ne révèle pas, à la seule condition... qu'il révèle des informations d'intérêt public. En clair, Mediapart ne vole pas, n'enregistre pas en cachette, mais si nous obtenons par des lanceurs d'alerte un enregistrement, quelle qu'en soit l'origine, pour peu que l'enregistrement révèle des informations utiles aux citoyens, nous les rendons publiques. Donc, comment les choses se sont passées par l'affaire Bettencourt, maintenant c'est connu. L'affaire Bettencourt, il y a un enregistrement illégal fait par le majordome qui voit qu'il y a autour de la vieille dame des aigres fins qui essaient de lui soutirer de l'argent. Donc dans un cheminement honnête, il veut enregistrer les aigres fins pour montrer que ce sont des prédateurs qui veulent voler l'argent à la vieille dame. Ce qui fera d'ailleurs qu'au pénal, il bénéficiera d'un non-lieu, le majordome. Nous obtenons les enregistrements. Que faisons-nous? Il y a 23 heures d'enregistrement. On enlève tout ce qui relève de la vie privée. En clair, les conversations entre la vieille dame et sa fille. Les conversations entre la vieille dame et son avocat. On considère que ça relève du domaine privé. Et on rend public tout ce qui nous semble d'intérêt public, c'est-à-dire présomption de financement illégal de parti, présomption de fraude fiscale, etc. Hein? Et ça a été une immense... confrontation judiciaire, puisqu'on a été poursuivi, et la bataille judiciaire s'est menée sur un débat sur le fait que le croisement de deux jurisprudences, celle qui protège la vie privée et celle qui protège le droit de savoir des citoyens. Et nous, on savait le risque judiciaire que l'on prenait, on a considéré qu'au plan démocratique, il était utile que Mediapart prenne le risque d'installer une jurisprudence qui protège le droit de savoir des citoyens, et on a gagné. Donc c'est très utile, et dans le cas de Benalla, c'est la même chose. Puisqu'on révèle que l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, totalement protégé par lui, viole son contrôle judiciaire et, par ailleurs, est en tractation avec une puissance étrangère, en l'occurrence un proche de Poutine. Voilà. Donc quand on a les enregistrements, on considère que c'est d'intérêt public, que les citoyens ont le droit de savoir, et donc... ce n'est pas nous qui avons fait l'enregistrement, nous l'obtenons, on en publie les extraits qui sont d'intérêt public. Voilà, mais vous observez bien que cette bataille pour le droit de savoir des citoyens, c'est une bataille compliquée, parce que dans le naufrage des médias, y a plein de médias qui ne font pas ça, et qui même ne le faisant pas, ne le relayent pas. Vous avez entendu le 20h de France 2 ou TF1 évoquer les enregistrements de Benalla. Il a fallu attendre 10 jours pour qu'il y ait une rapide mention, alors que tout le pays vit à l'aune de ce scandale pendant quelques jours. Bon. Oui, sur les noms, donner son nom à Mediapart, oui. Il faut bien qu'on ait... en fait, le rêve qu'on aurait, nous, c'est d'en finir avec l'anonymat. Je pense qu'on a réussi à installer un journal de qualité. Et à côté du journal, il y a le débat public. Il y a le journal, et puis autour du journal, il y a une sorte d'agora publique, puisque tous les citoyens qui s'abonnent peuvent tenir un blog. Je trouve mieux que le débat se fasse de manière loyale. Donc c'est vrai qu'on ne force pas nos abonnés à donner leur nom, certains sont sous pseudo, mais on y incite quand même. Plus le débat est public, plus il est apaisé. Et ce qui fait que, au moins, le fait d'avoir l'adresse mail, qui est obligatoire pour s'abonner, pour payer... fait que Mediapart est l'un des très rares journaux en ligne où la modération se passe relativement bien. On peut avoir un débat sur la Palestine sans être obligé de le censurer, de tout arrêter, tellement les gens s'insultent entre eux. Voilà, donc c'est une sorte d'effet de modération. Et plus les lecteurs accepteraient d'écrire sous leur nom, mieux leur billet de blog, mieux ça vaudrait. Portugal, j'ai pas bien compris quelle était l'invitation, si c'était pour saluer la politique à contre-courant de l'Europe qui est menée, et j'imagine que c'était ça votre habitation. Je ne peux moins attacher à la démocratie, au pluralisme, et donc attacher, très en colère contre la tyrannie intellectuelle que font peser les politiques néolibérales. Le dictatina, there is no alternative, c'est ça ce qu'on vit en permanence depuis 20 ans, de penser qu'il y a eu dans un pays, même si c'est de manière très modeste, modérée, mais en tout cas à rebours, saluons l'expérience et espérons qu'elle inspire d'autres pays. Il n'y a pas qu'une seule politique possible. La politique économique, c'est la part de choix des hommes. Donc il y a évidemment plein de politiques possibles, alternatives. Et donc c'est un peu l'invitation portugaise. Dans un univers européen, c'est évidemment d'être à contre-courant des autres, c'est évidemment dangereux. L'isolement est toujours dangereux, et le souhait qu'on aurait pu avoir, quand je repense aux années Jospin, on se souvient qu'à l'époque, quand Jospin devient Premier ministre, il y a combien ? 15 pays qui ont une majorité de gauche. On se dit que si à cette époque-là, il y avait eu des stratégies coopératives pour sortir de l'étau de l'austérité, et on a pu l'espérer, puisque vous vous souvenez que pendant la campagne législative de 1997, Jospin dit non au pacte de stabilité. Il dit c'est du super Maastricht, jamais. Et puis deux mois après, qu'il accède à Matignon, il dit on n'a pas le choix. Donc, mais c'est vrai que quelle échéance historique a-t-on raté à l'époque, en juin 2017, il y avait la possibilité de faire l'Europe, de donner une tournure totalement autre, avec des stratégies coopératives industrielles, avec une politique de mieux-disant sociale partout. C'est évidemment bien meilleur quand il y a des politiques coopératives où les différents pays s'adossent dans une logique de mieux-disant sociale, plutôt qu'un pays tout seul qui rame à contre-courant.
On va prendre une dernière série de questions, trois interventions, et puis après on laissera donc Laurent Mauduit répondre et puis conclure.
Deux questions liées. Est-ce que ça ne serait pas avoir les pieds sur terre et non pas quelque chose de très idéaliste comme on l'entend souvent, de supprimer la dette ou 50% de la dette, et quelles seraient les conséquences des pays, je crois, comme l'Islande, avec plus de moyens que nous, l'ont réalisé. L'Argentine a eu des conséquences négatives, mais peut-être qu'ils ont surmonté.
Et pour Haïti, que dire ?
Et Haïti ? Oui. Et pourquoi pas par référendum, comme s'il était évoqué ? Mais la deuxième question liée à ça, c'est un référendum. Est-ce qu'il peut être mis en place, contrairement à l'avis du Conseil constitutionnel ? Enfin, comment on fonctionne avec les contraintes ou les supercheries de la démocratie.
Un auditeur fait remarquer que vous n'avez pas répondu à la question de monsieur tout à l'heure. C'était sur si on en est arrivé là, est-ce que ce n'est pas l'absence de pays comme le communisme à un moment en URSS qui crée un front de résistance? Donc, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Et on prend une dernière question, s'il y en a une, de quelqu'un qui n'a pas pris. Ça va être donc...
Bonjour. Moi, ma question, c'était est-ce que, par rapport à vos activités à Mediapart, vous avez le sentiment d'être en sécurité par rapport à ce que vous pouvez éventuellement révéler, et notamment par rapport à l'utilisation de tout ce qui est réseaux sociaux et smartphones, si vous n'avez pas peur de éventuellement être surveillé par rapport à ça?
Je réponds et je conclue, c'est ça?
Exactement.
Sur le communisme, bien sûr. Je pense que l'époque de l'effondrement du mur est une période d'accélération. Avant l'effondrement du mur, il y a clairement plusieurs modèles de capitalisme. Il y a le capitalisme dit rhénan, en fait le modèle d'économie sociale, qui est un peu le modèle français, le modèle allemand, et d'un certain point de vue assez proche de ce qu'est le modèle japonais. Et puis il y a le modèle du capitalisme patrimonial, du capitalisme d'actionnaire anglo-saxon. Et c'est vrai que dans cet ancien capitalisme rhénan que connaît la France, il y a une forme d'équilibre. C'est vrai que c'est l'époque des Trente Glorieuses, mais il y a une forme d'équilibre où, un patron fait quoi ? Un patron, à l'époque, c'est une sorte de Bonaparte qui arbitre entre trois grands intérêts. entre l'intérêt de ses clients d'avoir les prix les plus bas possibles, l'intérêt de ses actionnaires d'avoir le plus de dividendes possible et l'intérêt de ses salariés d'avoir le plus de salaires possible. Et en fonction des rapports de force du moment, nationaux ou internationaux, il place le curseur du partage entre capital et travail à tel ou tel endroit. Et le fait que il y ait une confrontation entre deux blocs, le bloc occidental et le bloc russe, fait que cette forme de capitalisme un peu équilibré survit. Dès lors que le mur s'effondre, il y a une forme de tyrannie, une sorte de boulimie dans le capitalisme anglo-saxon où ils veulent croquer le monde. Et donc, d'un seul coup, le modèle anglo-saxon l'emporte sur tout. Et dans ce modèle-là, le patron d'une entreprise n'est plus l'arbitre entre les trois grands intérêts de l'entreprise, c'est le représentant exclusif des actionnaires. Et donc, on rentre dans un système. Il y a un livre écrit par un patron qui, moi, à l'époque, m'a beaucoup marqué, qui est Michel Albert, qui est à l'époque le PDG de l'UAP, un livre qui s'appelle « Les deux capitalismes », où il dit l'un des deux. À l'époque, ce n'est pas encore joué, mais il dit l'un des deux l'emportera sur l'autre. Et en fait, malheureusement, c'est le mode. Enfin, je ne défends pas le capitalisme des Trente Glorieuses, même s'il était socialement plus favorable aux classes laborieuses que les celui d'aujourd'hui. Mais tout s'accélère à partir des années 91-92. Voilà. sur la dette, évidemment qu'il ne faudra pas rembourser toute la dette. Si vous faites l'audit de la dette auquel je faisais allusion tout à l'heure, moi j'ai écrit un article très long en 2012 ou 2013 sur lequel s'est adossé en partie les chercheurs d'attaque qui ensuite ont complété mon travail sur la question de l'audit de la dette. Si vous prenez juste les années 2000, de 2000 à 2010, la dette augmente essentiellement à cause des baisses d'impôts, dont l'impôt sur le revenu. Et des rapports publics établissent le fait qu'en 2010, la dette publique aurait été de 20 points inférieure s'il n'y avait pas eu ces baisses d'impôts. Essentiellement, impôts sur le revenu, faites par Fabius en 2000 ou 2001, ministre des Finances, et poursuivi ensuite par la droite. 20 points de PIB, c'est-à-dire qu'on, en clair, on n'aurait pas été à la fin de 2010 à 85% de dette publique, on aurait été à 65%, tout près du critère de Maastricht sur la dette. Donc il va de soi que les valeurs portées notamment par attaque pour dire il y a une partie de la dette qui est illégitime, moi me convient. Je veux dire, et donc je pense qu'un gouvernement démocratique devrait faire, s'il a un jour le pouvoir, l'audit précis de la dette à cette époque et voir la part de la dette qui est illégitime, qu'il ne faudra pas rembourser. Je veux dire, et c'est vrai que dans l'histoire, c'est un vieux débat. Je faisais allusion à Haïti. Tous les malheurs de ce pays maudit, en plus des éléments naturels, des ouragans, des machins, ça a été le premier pays honnête qui a remboursé sa dette. Et tout son malheur commence du remboursement de la dette par Haïti. C'est une histoire terrible, pathétique. Voilà. Sur le référendum, je n'ai pas bien compris quel a été l'objet de la question. S'il s'agit de Macron, c'est vrai que c'est très, très inquiétant. On est dans un système monarchique, plébiscitaire, bonapartiste, voilà, si l'issue c'est cela. Sur la sécurité, je réponds très vite. À Mediapart, la crainte qu'on a, ce n'est pas notre sécurité à nous. C'est surtout la sécurité de ceux qui nous parlent. En clair, la sécurité des lanceurs d'alerte. Donc nous avons des procédures très méticuleuses que je n'exposerai pas ici, mais pour protéger ceux qui nous parlent. Et donc si quelqu'un m'appelle en me disant j'ai des grosses informations, le premier temps de la conversation, c'est que je lui explique comment on va se parler ensemble, dans quelles conditions de sécurité pour lui. Vous imaginez bien que moi je suis journaliste financier surtout, j'écris beaucoup sur les banques. Je ne peux pas écrire sur les banques sans des lanceurs d'alerte à l'intérieur de la banque. Et donc, en permanence, les questions de sécurité se posent pour ceux qui nous parlent, d'où l'enjeu démocratique très important de la protection des lanceurs d'alerte qui est encore très loin d'être assuré dans notre pays. Voilà, donc si je m'autorise un seul mot de conclusion, c'est le suivant. Je suis journaliste citoyen, je l'ai dit. Je ne sais pas si je mérite ce qualificatif, en tout cas j'essaie de le revendiquer, donc je suis très attaché à mon journal. Et donc, je le dis juste en forme d'autopublicité démocratique. Pour ceux qui ne connaissent pas Mediapart, je vous donne mon mail, mon adresse mail. et quiconque m'adressera un mail, je lui retournerai en remerciement un abonnement gratuit d'un mois à Mediapart pour faire connaissance. Donc voilà, mon mail est le suivant, c'est laurent.mauduit@mediapart.fr. laurent.mauduit@mediapart.fr. Voilà, c'est l'ambition de la vieille génération de Mediapart qui, voilà, c'est d'installer un journal démocratique, pérenne, qui fasse contrepoids à ce système très normalisé qu'on a en face de nous. Voilà, merci de votre écoute.
Merci Laurent.